Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste. Midi 13h.
17h, 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Ce souffle du nez en même temps.
De glace entre chaque mot.
Moi, je vais te rechigner.
Nous parlons tous de la
logosphère.
Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi, c'est le citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bienvenue à toutes et à tous dans ce Tous au poste du mercredi 24 mars. Pascal Rullier au petit bouton de la technique, Julia Chamaudon et tout son florilège de stagiaires au micro aujourd'hui, ainsi que Ricardo. Alors que Nicolas Sarkozy préparait son discours qu'il clamera aujourd'hui sur nos postes télévisuels, première intervention publique depuis l'échec cuisant de la droite aux élections régionales, hier, mardi 23 mars, plus de 80 000 manifestants ont battu le pavé dans le Grand Sud pour s'opposer aux réformes gouvernementales. Hôpitaux, postiers, enseignants, transports en commun, pompiers, universités, retraités, France Télécom et j'en passe. C'est tout un pan de la fonction publique qui criait son ras-le-bol, et ce, de Paris à Marseille. Je vous invite d'ailleurs à consulter les photographies de manifestations, ma foi, fort représentatives de ce mouvement populaire sur le site dumonde.fr. Mais sans transition, je passe tout de suite à notre menu du Tous au poste. À midi 20, je recevrai Éric Jalabert. Il sera question de Drôle de Printemps, un festival d'humour, mais pas seulement, présent ce week-end à Lunel. Et puis Ricardo sera à ce micro même à partir de midi 40. Il recevra un membre de l'association Solidarité Dom Tom. Ensemble, ils nous allécheront nos babines en évoquant la fête des cuisinières, un moment de convivialité et de partage culinaire issu de la tradition guadeloupéenne. Bonjour Ricardo, il me fait signe derrière la vitre. Allez, on passe tout de suite à nos bons plans. Armez-vous d'un stylo, armez-vous d'une feuille de papier. C'est Célia, Yannick, Lucille et Sébastien qui sont tout de suite à notre micro de ce Tous au poste.
Et on commence ces bons plans comme d'habitude avec de la musique. Vous vous souvenez sûrement de Bianca, la Castafiore de Moulinsart, à qui on avait dérobé ses bijoux.
La 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 la.
Eh bien, le groupe Les Castafiore, qui n'a aucun rapport avec ce que je viens de vous raconter, sera ce soir à l'Antirouille. On rappelle que c'est 12 rue Anatole France. Ils reprendront des chansons françaises, mais aussi internationales, avec humour.
Et en première partie, il y aura d'ailleurs le comptoir des fous que nous avons reçu hier dans ce Tous au poste.
Oui, que nous avons reçu. C'est à 20h30, l'entrée est de 10 euros, sauf pour les plus malins qui détiennent le précieux Pass Culture, ils paieront seulement 7 euros.
Et on continue avec le groupe rock Didiglers, tout droit venu des Alpages suisses, qui vous donne rendez-vous à 20h30 au bar Up and Down, 5 rue du Pila Saint-Gély. L'entrée sera libre.
Et pour tous les amateurs de claquettes qui recherchent un poquito de calor, on vous propose une soirée flamenco avec le groupe Los Chiquitos del Sur.
Aïe aïe aïe!
C'est à 21h30 au bar La Pleine Lune, c'est 28 rue du Faubourg Figuerolle, l'entrée est libre.
Ce soir au Baloar, vous aurez l'occasion de visionner un florilège de courts-métrages sur le thème de la folie. Les films proviennent du groupe de production indépendant Kino, né à Montréal. Il produit les courts-métrages d'artistes ou pas sur des sujets divers et variés. Ce soir, c'est folie. Rendez-vous avec 3 euros si vous n'êtes pas membre. 20h30 au Baloar, 21 boulevard Louis Blanc.
À 18h, au CNRS aura lieu une conférence sur la robotique et plus particulièrement sur les différents systèmes d'intelligence artificielle. La reconnaissance de données ou encore les traitements de la langue parlée et écrite constituent autant de sujets qui seront abordés ce soir. Cette conférence se déroulera à 18h au CNRS, 1919 route de Mende. Jik et Jikette de tout poil et de tous horizons, venez nombreux, l'entrée est libre.
Et en ce mercredi, pour occuper vos tout-petits, on vous propose l'abominable Mamie Yeti, un conte tout en musique raconté par Anthony Alborgetti. Ça débutera à 15h30 à la médiathèque Émile Zola à Antigone. L'entrée est libre, profitez-en.
Aujourd'hui, Célia vous l'a dit, c'est le jour des enfants, ça n'arrive qu'une fois par semaine. Vous en avez fait, alors assumez. Pourquoi ne pas les emmener sur la planète aux bonbons, un spectacle de contes et de magie. Les places sont de 4 à 7 euros. Rendez-vous au Théâtre de la Plume, 6 rue Guillaume Pellissier, à 16h précise.
Dans le cadre de l'Agora des Savoirs, une conférence sur le thème « Au fondement des sociétés humaines, la politique et le sacré ». Cette conférence sera donnée par l'anthropologue Maurice Godelier, ce soir à 20h30 à la salle Rabelais, l'entrée est libre.
Et c'est rediffusé en direct sur Divergence FM. Exactement.
Alors si vous aussi vous aimez observer et rêver devant les grands coups des girafes, les grandes trompes des éléphants, les grandes cornes des rhinocéros et les gros pénis des poneys, rendez-vous à 14h au zoo de Lunaret pour une visite sur le thème de la sauvegarde des espèces menacées. Sont au programme une présentation de la gestion et du fonctionnement du parc, de son histoire et des projets en cours. L'inscription est obligatoire et gratuite au numéro 04 99 61 45 43. Je répète le numéro 04 99 61 45 43.
Jeunes gens, pauvres jeunes gens, si vous aussi les vacances s'annoncent ternies par un job pourri ou encore plus ternies par la crainte de ne pas en trouver un et devoir passer l'année à vivre dans un 8 mètres carrés à sucer des pâtes à l'eau chaque soir de la semaine, on se motive et on se rend à la journée des jobs d'été. Elle aura lieu de 10h à 17h au CRIJ et au CREPS, respectivement 3 et 2 avenue Charles Flahaut. Renseignements au 04 67 04 36 70, je répète 04 67 04 36 70.
Et voilà, c'est tout pour ces bons plans qui, à défaut d'être, d'avoir des infos culturelles, brassent aussi pas mal de social aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Tout de suite, on enchaîne avec la nouveauté de la semaine. C'est Marvin. Ils sortent leur deuxième album le 6 avril. Ils seront en concert avec Copson le vendredi 26 mars au Rockstore et ce sera retransmis sur Divergence FM en direct à partir de 20h. Marvin, jeune trio rock noise instrumental montpelliérain, salué par le public européen. On écoute tout de suite leur troisième titre issu de leur album Hangover the Top et ça s'appelle Dirty Taping.
Let it go, baby. Don't be afraid to go through.
écoutait avec plaisir, de manière assez rock, Dirty Tapping. C'était Marvin pour son album Hangover The Top.
Tous au poste, interview.
Et en première partie de ce Tous au poste, je reçois Éric Jalabert. Vous êtes membre de la DADIF et de Vivant Mac. Vous êtes créateur, directeur et coordinateur de... Eh bien, cette aide à la création, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous organisez un festival d'humour, ça s'appelle Drôle de Printemps. Un festival d'humour, mais pas seulement. Pourquoi pas seulement ?
Alors, parce qu'on ne voulait pas rentrer dans le festival de One Man uniquement, comme il en existe un certain nombre, et qu'on voulait proposer, qu'il y ait une prolongation de notre travail, toute la diversité du spectacle vivant sans ornière, quoi.
Alors, vous parlez de One Man, eh bien, on y est presque, hein, puisqu'il y a Patrick Côté-Moine qui, lui, eh bien, se représente tout seul, ainsi qu'Alex Le Quid. Et puis après, trois trublions qui nous présentent Mange ta soupe, c'est la compagnie Les Nains du Sud, une comédie en trois actes. C'est un festival qui se déroule eh bien, ce week-end, le 26, 27, 28 mars 2010. Et ça se déroule à Lunel-Vielle, dans un petit village de l'agglomération montpelliéraine. Le choix de cette programmation est venu comment ?
Alors, c'est une demande que nous avons eue de la part de la ville, de la commune de Lunel-Vielle, de l'équipe municipale en place, qui souhaitait proposer du théâtre. Un peu en alternative à toutes les fêtes votives que l'on voit dans la région et qui souhaitaient proposer autre chose. Donc dans le cadre de cette demande, on a fait déjà le premier festival l'année dernière, mais l'idée c'était justement de ne pas faire que du one-man show, même si nous avons des artistes qui sont seuls sur scène, pour aussi des raisons de budget, on voulait proposer une plus grande diversité que le one-man traditionnel avec des sketchs, une succession de sketchs.
Qui sont-ils, ces artistes que vous programmez ce week-end ?
Alors, nous avons Patrick Côté-Moine qui ouvre le festival, qui fait du mime visuel.
C'est donc, génial. Hein,
mime visuel et sonore. Mmh. Vous l'avez déjà vu ?
Oui,
peut-être
je l'ai vu en fait sur votre site internet.
Voilà, il y a des extraits. Et c'est du théâtre d'humour, mais pas seulement. C'est pas du one man. C'est un peu ce que l'on pourrait qualifier de nouveau mime, comme on parle de nouveau cirque.
Mmh. Ou de burlesque peut-être.
Il y a du burlesque. C'est vraiment quelque chose. Alors c'est très visuel, bien évidemment. Sonore. Pour du mime, c'est curieux. Il fait beaucoup de bruitage et c'est à mourir de rire, quoi.
Comment vous l'avez rencontré, Patrick Côté-Moine ?
Eh bien, ça, on l'a vu. Il y a déjà, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis plusieurs années, qui tourne beaucoup sur tous les continents, puisque le problème de la langue est résolu, et qui est basé en PACA. Puisque le travail que l'on fait à travers l'association, c'est du repérage de spectacles sur tout le Grand Sud-Est. Et on l'a rencontré sur un festival, on l'a vu plusieurs fois à plusieurs occasions. Et il a eu la gentillesse de venir nous voir et faire l'ouverture du festival. Parce que c'est quelqu'un qui a un emploi du temps quand même assez chargé, mais qu'on souhaitait faire découvrir aussi dans la région.
Et puis, ça donc c'est le vendredi 26 mars à 21h. Et puis ensuite, le samedi, vous programmez Alex Le Quid pour un one-man show que je qualifierais plus à l'américaine. Hein. On est entre les claquettes, le chant, l'humour. Il y a quelque chose plus de l'ordre de la représentation.
Voilà, alors là, c'est à la différence du one-man show à la française, on va dire, qui est souvent une succession de sketchs, etc. Là, c'est un artiste complet qui est vraiment plein de générosité. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de beaucoup plus festif, avec de la musique, avec des sketchs, avec de la danse. Il va mettre le feu, il va transformer la petite salle de Lunel-Vielle en zénith quasiment, quoi.
En zénith avec du rire and blues. Et puis le dimanche, c'est Mange ta soupe, une comédie en trois actes et 203 calembours, nous dit-on. Une comédie qui nous sort tout droit de la compagnie Les Nains du Sud.
Alors ça, c'est une compagnie de PACA également. Alex Le Quid, lui, est de Toulouse, donc en région Midi-Pyrénées. Et Les Nains du Sud sont de la région PACA. Et on voulait proposer une forme de café-théâtre un petit peu différent, avec à la fois les règles de base du café-théâtre, mais en même temps avec une réflexion sur l'identité de chacun, sur les apparences, etc., que l'on découvre au fil du spectacle.
Alors, une soirée, un artiste, ce sont des artistes que vous avez repérés ultérieurement ?
Oui, tout à fait. Ça fait partie complètement du travail que l'on fait tout au long de l'année. puisque avec l'association, on voit à peu près 300 spectacles par an sur les quatre régions que l'on couvre, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, donc, et sur lesquels on fait des commentaires positifs ou négatifs, hein, même si ça reste subjectif, on en est tout à fait conscient, qui permettent de répondre aux attentes des programmateurs réguliers ou ponctuels qui consultent le site pour les accompagner dans leur recherche de spectacles.
Alors cette association, c'est l'ADADIF, l'association d'aide à la diffusion interrégionale du spectacle vivant. Le but en étant peut-être donc du coup de soutenir la création régionale.
Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est que souvent les lieux, les festivals travaillent avec des têtes d'affiche qui permettent de faire venir un public plus nombreux.
Puis d'offrir une place à des petits groupes aussi en première partie, etc. aussi.
Tout à fait, oui. Après, il y a un complément, mais c'est vrai que la logique de la tête d'affiche, on la comprend tout à fait. Mmh. Mais ce que l'on dit, c'est que si on ne fait pas tourner les compagnies régionales, les petites et moyennes structures, qui seront les têtes d'affiche de demain ?
En quoi ça paraît nécessaire de les faire tourner, ces petites compagnies qui sont moins médiatisées que les autres ?
Parce que tout simplement, elles ont besoin de montrer leur travail, de le faire découvrir au plus grand nombre, et que ça permet de contribuer à la diversité de la création régionale. Donc, qui n'est pas toujours, qui n'est pas toujours considéré à sa juste valeur, même s'il y a tout un tas de structures qui font tout à fait bien ce travail-là. Quoi.
C'est un risque à prendre. Je parle aussi d'un point de vue financier.
C'est un choix. De toute façon, la programmation, c'est aussi un choix politique. Nous, on a aussi répondu au cadre qui nous était fixé, c'est-à-dire faire de l'humour, même si dans le travail que l'on fait, on ne va pas voir que des spectacles d'humour. Mais il est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus accessible, qui permet, et c'est ça l'idée, de faire découvrir ce qu'est le spectacle vivant à des gens qui n'ont pas toujours l'habitude d'aller régulièrement au spectacle et qui vont se dire finalement c'est pas aussi chiant que ça le théâtre.
Ça s'adresse à qui alors? À des populations qui n'ont pas l'habitude de voir du théâtre? À des ruraux?
Non, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Je suis pas non plus dans une discrimination entre dire il y a ceux qui vont voir le spectacle et puis il y a les ploucs, quoi. C'est pas du tout ça l'idée.
Non, mais dans le sens où il y a des non-initiés, peut-être sensibiliser un public non-initié au théâtre.
Voilà, il y a des gens qui n'ont pas pour qui ça n'est pas naturel, malgré tout le travail qui est fait en scolaire et par tout un tas de structures qui essaient de d'irriguer le territoire, comme on dit. Malgré tout, l'idée, nous, dans notre travail, c'est de faire découvrir des spectacles accessible, c'est-à-dire, pour schématiser, qui ne soit pas dans un certain élitisme et dans une certaine recherche expérimentale où il y a effectivement un certain nombre de lieux qui proposent ces formes-là, et c'est tout à fait bien, et à l'inverse, qui ne soit pas de l'animatoire et des clowns gonfleurs de ballons.
On peut parler de divertissement ou pas ?
Moi, ça ne me gêne absolument pas. Oui, les gens viennent au spectacle aussi pour se divertir. Mais l'idée du théâtre d'humour, mais pas seulement, c'est justement que l'on peut y découvrir d'autres pistes. L'année dernière, nous avions un spectacle qui s'appelait Mango Mentalista, qui était un spectacle de mentalisme.
De mentalisme. Ouais, mais qu'est-ce donc ?
C'est de la lecture dans les pensées. C'est de la magie. Maintenant que le spectacle est passé, on peut dire ce que c'est de la magie, mais malgré tout qui est très bluffant, mais en même temps qui permet d'avoir une réflexion sur la manipulation, en fait. Donc cette année, on a souhaité être davantage dans le divertissement, enfin dans des choses plus légères, tout à fait. Ça a été aussi un peu le bilan que l'on a fait, même si l'année dernière, ça s'est très bien passé. On voulait l'ouvrir davantage, mais sans forcément rester dans le pur théâtre, donc en essayant d'aborder un certain nombre de formes différentes.
Un des axes de votre travail aussi, c'est de favoriser les échanges entre donc ces compagnies régionales et les programmateurs régionaux, les petites communes, les communautés de communes, etc.
Tout à fait.
C'est un challenge, ça ?
c'est un challenge sûrement, parce qu'on n'est pas aussi nombreux que ça à s'y coller. Mmh. On le fait de façon totalement indépendante, c'est aussi un acte militant quelque part, en abordant la question financière, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une activité économique, le spectacle vivant, les compagnies professionnelles, nous ne travaillons qu'avec des compagnies professionnelles, même si en termes de qualité, il y a des compagnies amateurs qui travaillent et qui font un très très bon travail. Simplement, la règle du jeu n'est pas la même, elles ne vivent pas de ça. Donc nous, on se limite vraiment aux compagnies professionnelles qui ont fait acte de vivre de ça.
Est-ce que c'est pas un avantage pour ces petits programmateurs, enfin de toucher ces petits programmateurs, puisque est-ce qu'ils sont pas plus enclins à la nouveauté? En tout cas, plus libres dans leur choix.
Ouais, nous, en tout cas, c'est le choix que l'on a fait, même si certaines structures importantes de diffusion de spectacles sont adhérentes ou sont abonnées à l'association à travers le site internet, le catalogue que l'on édite, les newsletters. C'est aussi un appui pour elles, puisque il faut savoir que les communes et les communautés de communes financent 70% du spectacle vivant. Donc c'est concentré effectivement sur les grosses structures. La ville de Montpellier a des budgets de dédiés au spectacle qui sont très importants.
5% d'après Georges Frêche vont être alloués à la culture cette nouvelle année.
Mais là, c'est la région.
C'est la région.
Ouais. Mais les régions, quand je dis 70%, c'est-à-dire sur l'ensemble, c'est-à-dire ministère, région, département, et ensuite communes et communautés de communes, les communautés de communes et les communes représentent 70% de l'ensemble de ce total, donc largement devant les régions, les départements et même le ministère. Quoi.
Comment ça se passe? Parce que vous sillonnez 4 régions, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA, Rhône-Alpes, vous organisez plusieurs festivals, plusieurs rencontres de spectacles vivants, vous repérez plus de 300 spectacles par an. Comment ça s'organise tout ça?
Alors, nous, on est organisé avec une vingtaine de correspondants qui sont basés dans les différentes régions que l'on couvre. Ça représente 4 régions, 27 départements, 8000 communes quand même. Alors, on n'est pas là partout, hein, on n'a pas la prétention d'être là partout. Et ces correspondants qui ne sont pas des journalistes au sens premier du terme, hein, mais qui sont des personnes qui aiment le spectacle, qui ont une attirance vers ce spectacle, et qui ont envie de participer à la découverte de ces créations. Donc elles sont basées à Lyon, Montpellier, Grenoble, Toulouse, Marseille. Et quand elles vont voir des spectacles, elles s'engagent à faire un retour. Alors ce sont des retours relativement limités en termes de longueur de texte, mais qui ont un regard sur le travail de la compagnie, sur l'accessibilité du spectacle, sur le calage, sur le public également. Hein, c'est important, les spectacles sont quand même aussi proposés et avant tout proposés pour un public, et qui en font un retour avec un système de petites classifications, les spectacles qui sont un peu décevants, et puis ça va jusqu'au coup de cœur. Et ces commentaires sont ouverts aux commentaires d'autres internautes, de professionnels qui aussi peuvent être d'accord ou pas d'accord avec les retours que l'on en fait.
Sur le site www.vivantmag.fr.
Tout à fait.
Il y a un réseau passerelle qui existe dans la circulation des spectacles intra-région sur tout le territoire. Qu'en est-il actuellement de ce réseau-là?
Alors ça, c'est un projet sur du long terme, on va dire. C'est-à-dire que d'une part, nous avons un certain nombre d'adhérents qui sont des petites structures, qui ne vont pas toujours voir les spectacles, qui programment entre 2 et 10 spectacles par an, qui sont pas toujours considérés par les gens de la culture comme des programmateurs. Nous, il nous semble que faire un spectacle de rue pour un office de tourisme balnéaire, eh bien, on peut proposer aussi des formes de spectacles qui tiennent la route, plutôt que de l'animatoire basique, on va dire. Mais on s'appuie également sur un réseau de partenaires qui regroupe là des structures professionnelles qui programment des spectacles. L'idée, c'est que elles en programment un peu plus de 10, au moins 10 par an. Et à ce moment-là, elles sont implantées donc sur toutes ces régions. Ça va de gros théâtres municipaux comme à Canet en Roussillon, à côté de Perpignan, à des festivals comme Aurillac ou le Grand Bornand, qui est un gros festival dédié à l'enfance en Haute-Savoie, et qui avec lesquels on fait des échanges d'informations, parce qu'on n'a pas du tout la prétention de connaître tout ce qui se fait, et qui nous font part de leur coup de cœur. Et le réseau Passerelle, ce sont les partenaires ce sont ce type de partenaires qui, avec qui on est en train de mettre en place, parce que c'est un gros travail, d'échange de spectacles, c'est-à-dire de dire, moi j'ai un coup de cœur, voilà, que j'aimerais faire partager à d'autres, et je m'engage à prendre un des coups de cœur proposés par les autres, dès lors qu'ils rentrent bien sûr dans la ligne de programmation.
Pour résumer, on pourrait dire que c'est un grand collectif d'amateurs, de spectateurs amateurs de spectacles vivants qui échangent et se rencontrent sur ce qu'ils voient.
Alors là, non, le réseau Passerelle, ce sont des professionnels, ce sont des structures qui programment des gros festivals qui ne font que ça, quoi. Le festival d'Aurillac, le festival de Chalon, le Grand Bornand. Il y a des lieux, il y a des petits théâtres indépendants également, comme le théâtre de Poche à 7, qui programme 160 spectacles à l'année, donc avec lesquels on travaille également en échange d'informations.
Au-delà des spectacles, c'est aussi la volonté de créer un lieu de rencontre, de créer une certaine proximité. Je reviens au festival Drôle de Printemps, hein, qui se déroule à Lunel-Vielle ce week-end. C'est ça, c'est de créer du lien, c'est d'attirer une certaine proximité, puisque vous créez des moments, des temps d'échange entre les artistes et le public.
Ça nous semble la moindre des choses, de pouvoir, au-delà du spectacle, se rencontrer. C'est aussi ça qui fait la différence par rapport au fait de rester devant sa télévision et de regarder ce qui s'y passe, même si il y a beaucoup de choses peu intéressantes, mais il y a des choses très intéressantes aussi. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Mais c'est justement dans cette idée-là que le festival a été créé, puisque la salle Roux, qui est une petite salle des fêtes basique, comme il en existe de très nombreuses dans les villages, on l'a complètement réaménagée. Là, on est en train de le faire. J'y retourne cet après-midi, d'ailleurs, avec un scénographe qui est Éric Poulain, qui est un scénographe de Montpellier, et qui a remodelé la salle pour en faire quelque chose de convivial, de sympathique. Donc, il y a tout un aménagement. Il y a une artiste héroltaise qui vient, qui fait un personnage qui s'appelle Marie-Madeleine de Rothschild, qui viendra...
nous parler de Tupperware, apparemment.
Voilà, qui nous fera partager son amour, sa passion pour l'amour, la gloire et les Tupperware. Donc c'est tout un programme. Et elle est là justement pour faciliter l'échange, pour échanger. Il y a une exposition également qui est présente pendant toute la durée du festival autour d'objets qui ont une double lecture, à la fois humoristique et puis...
quotidienne, apparemment.
Voilà, pendant toute la durée du festival, hein, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, c'est Véronique Delon qui nous fera découvrir ces drôles de rien. Et Marie-Madeleine, justement, fera le lien, permettra qu'il y ait un contact. Et puis après le spectacle, bien sûr, une rencontre avec les comédiens pour ceux qui souhaiteront discuter avec eux.
Un gros programme donc pour ce festival Drôle de Printemps, 26, 27, 28 mars. Une soirée, un humoriste et puis bien sûr eh bien, un bar musical et puis des petits spectacles, une exposition tout autour. Merci à vous Éric Jalabert d'être venu nous parler eh bien, de cet événement-là et puis plus particulièrement aussi, plus amplement, de ce catalogue de spectacles repérés, vivants, desquels vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.vivantmag.fr. Quelque chose à rajouter ?
Alors, juste une précision que j'oublie à chaque fois, qui est un vrai choix politique de la ville, c'est le prix des spectacles. On a eu un long débat là-dessus parce que, voilà, il y a toute une question qui se pose derrière, mais le prix du spectacle de la soirée complète est à 5 euros. 5 euros, tarif unique. Et le premier spectacle de vendredi est accessible pour des enfants à partir de 8 ans, alors que les suivants sont plutôt pour un public à partir de 12 ans, 10-12 ans, parce que c'est a priori un public adulte.
Un tarif qui reste donc accessible pour un festival d'humour. Merci à vous d'être venus. Et merci. Puis, bah, bon festival, rigolez bien.
Merci.
À bientôt.
On va se quitter avec Alex Lecouid, un extrait de son spectacle.
All right. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Enfin nous y voilà ce soir, cela me remplit de bonheur, d'espoir. Et de vous voir me rend complètement fou, 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 fou. Pour vous je pourrais bien tout chanter, pour vous je pourrais bien tout danser, pour vous je pourrais bien tout casser tout. Laissez là vos problèmes, vos soucis, vos bobos et vos impôts. Car ce soir nous avons un public formidable, n'est-ce pas?
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
Hein? Mais t'as une chemise de nuit saillante, une chemise de nuit transparente. Vous allez me dire, en ce moment, je suis un peu grosse, un peu maigre. On s'en fout. À la maison, il n'y a pas d'élément de comparaison.
Je viens de la lettre, oui, dis bonjour. Je t'aime toujours. Venait-elle me voir au pavillon Malta? Non, non.
Tout au long de ces quelques années où je fais ce métier, les gens m'ont souvent comparé à un grand monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect, monsieur Henri Salvador.
Wow, I feel good. I know that I'm hood, baby. Oh, I feel good.
Tu m'as reconnu? C'est moi, Michael. Klaxo. Il y a eu passation de pouvoir. Je veux dire que l'alcool s'est mis à jouer et le comédien est devenu liquide. Tu parles d'un métier, toi? La prochaine fois, je fais Mireille Mathieu, moi.
Tout ce poste, interview.
Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. caresser tes petits seins. Pas besoin de me faire un dessin. En pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion.
Bonjour, bonjour, divergent, divergent, fruit de la passion, Franck et Vincent sur Divergence FM aujourd'hui. Tout ça pour présenter la fête des cuisinières qui aura lieu ce samedi 27 mars à la salle de rencontre de la mairie de Montpellier à 12h30. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous deux invités illustres. Nous avons commencé par le directeur de l'association Solidarité Dom Tom qui chapeaute cet événement. Jean-Claude Senneville. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc directeur d'association depuis 3 ans et membre de l'association depuis une vingtaine d'années. Et puis, à ma droite, nous avons du grand, du lourd, du costaud, pas que par la taille et par le poids. Double champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, plus de multiples titres nationales, au handball, j'ai nommé Joël Abati.
Bonjour.
Bonjour Joël.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes là en plus en qualité de parrain de l'association Solidarité Tom Tom.
Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je crois que j'ai répondu à l'appel parce que je crois que c'est important de venir présenter tout ce que nous faisons et tout ce que nous proposons aux Montpelliérains et aux Languedociens.
Comment vous êtes venu l'idée d'être justement le parrain de cette association ?
Parce que nous sommes assez nombreux dans cette région, et je voulais qu'il y ait vraiment quelque chose qui nous rassemble, qui soit une porte ouverte aussi sur la région. Donc j'ai discuté avec les différents responsables et on s'est dit qu'il faut qu'on se fédère et qu'on puisse présenter quelque chose. Et cette première réunion rencontre interrégionale d'outre-mer s'est passée l'an dernier à Gramont. C'était formidable. On a pu tout autour de la culture antillaise ultramarine présenter des spectacles, des expositions de cuisine ou autre, de culture, et que c'est important qu'on puisse nous découvrir, qu'on sache qu'on est là. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont à Montpellier, d'Ultramarin, et c'était notre façon de nous rencontrer et de présenter ce que nous avons de mieux chez nous pour la région.
Et justement, Jean-Claude, je pense que c'est du pain béni pour vous d'avoir un parrain pareil.
En effet, à part jouer à la bâtie comme parrain, c'est inespéré. Mais il faut dire que c'est vrai que, comme il vient de le préciser, c'est important de se fédérer, d'être ensemble, de faire pas mal de choses qui soient intéressantes pour la région. C'est vrai que Joël, il n'y a pas longtemps, on a eu un petit entretien justement qui me disait le nombre d'ultramarins qu'il y a dans le Languedoc-Roussillon, c'est quand même assez important. Et je pense qu'il y a matière à faire des choses énormes, comme il m'a dit.
Et justement, par exemple, à organiser la fête des cuisinières. Qu'est-ce que la fête des cuisinières ?
La fête des cuisinières en soi, c'est une fête quand même qui est un moment fort de la culture guadeloupéenne. Et c'est vrai qu'en l'implantant, en voulant l'inculquer ici dans la culture languedocienne, on a voulu quelque part partager cette manifestation qui est grandiose. En effet, c'est vrai que de façon historique, en Guadeloupe, la fête des cuisinières, en l'occurrence, c'est une fête qui est renommée et qui a son point d'orgue à la mi-août, en fait. Donc, dans l'arrière-temps, comme on dit, en temps longtemps chez nous en Guadeloupe, les personnes, les familles aisées invitaient ces dames à cuisiner l'espace d'un week-end. Et c'est vrai que c'était des moments de joie. Et pour eux, c'était un moment d'exprimer leurs talents divers en matière culinaire.
Et donc, vous avez délocalisé cet événement à Montpellier.
Voilà. Et c'est très important. Dans la mesure où on est connu pour être des fins gourmets, tout ce qui est petits plats, on adore dans les îles. Joël ne me dira pas sur ce point-là.
Et justement,
je voulais dire que c'est vrai que la cuisine antillaise est une cuisine très riche, puisque... Il y a plusieurs apports, la cuisine africaine, la cuisine française aussi, et indienne aussi. Donc on a fait ce mélange, ce mélange de toutes ces cuisines qui fait notre richesse.
Et en plus pour cet événement, je pense que vous avez aussi pas que la cuisine de Dom Tom, vous avez aussi des cuisines de l'océan Indien, de l'île Maurice, du Maghreb.
Tout à fait. Et nous savons que chez nous, la cuisine, vraiment c'est une institution et qu'on y tient, et qu'à travers cette cuisine, on peut justement proposer à Montpellier, comme il y a beaucoup de restaurants antillais, il y aura plusieurs sites où on pourra retrouver ces cuisines antillaises. Pour ceux qui veulent découvrir, voyager à travers notre cuisine, puissent venir le faire dans la région ou à Montpellier. Ça, c'est important pour nos cuisiniers, toute notre culture. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a voulu partager ça avec les Montpelliérains. Donc venez découvrir toute cette cuisine, venez voir comment on fait nos petits plats et qu'on puisse l'aménager aussi avec la cuisine régionale. Et le poisson, comme on peut le voir, il y a plusieurs plats qu'on peut mélanger et qu'on peut faire vraiment une vraie osmose entre ces deux cultures. Donc c'est important, venez voir parce que ça nous tient à cœur, ce genre de truc, et puis ça nous rassemble aussi. Et quoi de mieux que se rassembler autour d'un repas.
Et justement, Jean-Claude, rappelez-nous le lieu et l'heure. De l'événement.
Le lieu est comme chaque année, c'est la salle des rencontres de la mairie de Montpellier qui nous accueille aussi nombreux qu'on peut. Donc on sera au moins entre 400 et 500.
C'est-à-dire en dessous au niveau de la mairie.
Voilà, en dessous. De toute façon, ce sera fléché. Ne vous inquiétez pas. Depuis la comédie, vous serez attiré par les odeurs émanant de la mairie.
Et les bruits aussi, peut-être.
Et les bruits aussi.
et par rapport à ça, donc vous avez. Depuis 10 ans, donc vous avez à peu près 400-500 personnes, ça,
oui, en moyenne, ouais, parce qu'on a des fidèles, les irréductibles, chaque année, qui connaissent. La seule chose qu'ils nous demandent chaque année, c'est la date. Donc ils savent, ils connaissent, et puis donc ils viennent redécouvrir un petit peu tous ces petits plats mitonnés par nos adhérents, nos bénévoles et les salariés qui s'y prêtent au jeu.
Ah, parfait. Et puis quand je vois le CV de Joël Abati, bon, il nous dit qu'il aime les petits plats. Bah, apparemment, ça devait être des bons plats parce qu'il arrive à rester svelte et grand avec ça. Et quand on voit son parcours, quand même, c'est un homme qui est couvert d'or et de bronze. C'est-à-dire médaille d'or aux Jeux Olympiques, médaille d'or aux Championnats du Monde. Sinon, c'est médaille de bronze aux Championnats du Monde au Portugal, médaille de bronze en Tunisie. C'est-à-dire que vous, une finale, vous la gagnez, quoi, en fait.
Eh bien, c'est-à-dire que j'y mets les moyens, mais aussi l'équipe qui est aussi. Je crois que c'est important que le handball, alors qu'il est la meilleure équipe. En France, de sport collectif qui brille, et c'est important parce que on reste humain, ça c'est important, on reste proche de nos supporters, et puis on est abordable. Le handball, c'est un sport sain, je tiens à le dire, parce qu'on n'est pas favorisé par les médias, on n'est pas valorisé non plus, et c'est dommage parce qu'on a tellement de choses à montrer, on a déjà démontré ce dont on était capable de faire, et je crois que on a besoin d'accompagnement et d'être aidé dans ce sens. Mais je tiens à vous dire qu'à Montpellier, on est très fiers aussi d'avoir une grande équipe de handball qui est 11 fois champion de France et qui a gagné moult titres.
Et qui est en phase de faire un
quart de finale de Ligue des Champions. Donc venez aussi voir le handball parce que on veut vous montrer l'ambiance et tout ce qu'il y a autour et puis les grands champions qui y composent.
Ligue des Champions que vous avez gagné avec Magdebourg.
Voilà, en Allemagne, parce que j'ai passé quelques années en Allemagne.
10 ans en Allemagne, non, c'est ça ?
10 ans en Allemagne.
10 ans en Allemagne.
Ce sport est une vraie institution là-bas et une vraie culture. Le handball est vraiment à sa place et les joueurs aussi sont vraiment très bien, ce qui fait que tout handballeur a passé au moins une ou deux ans dans les clubs allemands parce que ça attire ce championnat est vraiment le plus grand du monde. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons Karabatic dans notre équipe à Montpellier. Et on a vu qu'il c'était le vrai Kaiser, l'empereur, comme on dit, à Kiel. Et maintenant, il est chez nous. On a cet honneur de l'avoir chez nous. Et on est très fiers d'avoir un enfant de la région qui a été...
Oui, il est de Frontignan.
De Frontignan, qui a été formé dans la région. Et au jour d'aujourd'hui, il est chez nous. Et c'est une grande fierté pour la région.
Et pourquoi vous êtes venu finir votre carrière à Montpellier ? Pour le soleil, peut-être ?
Bah, le soleil, je connais, je suis aux Antilles, je connais le soleil des Antilles, mais ça s'y rapproche. C'est vrai que le soleil de Montpellier, de la région, s'y rapproche un peu, mais c'est aussi les ambitions. Je crois que c'est une région très active qui attire beaucoup de monde et notamment ceux qui ont envie de les aider, de ceux qui ont envie de démontrer leur capacité. Donc j'ai eu un appel de l'entraîneur et j'ai voulu participer à cette aventure avec cette grande équipe montpelliéraine qui a toujours brillé en France et qui a montré ses capacités. Donc j'y reste, j'ai d'autres opportunités, d'autres chances de montrer mes capacités et voilà, c'est important de travailler aussi pour les autres et faire connaître son sport.
Donc on peut inciter toutes les mamans du monde à donner à manger comme peut-être les plats que vous allez présenter à la fête des cuisinières. Je lis Colombo poulet sauté main, ça doit être chinois ça, ou de l'île Maurice, tiens. Oh tiens, je suis impardonnable.
Sauté de mine, je précise.
D'accord, sauté de mine, d'accord, oui. C'est vrai qu'au fait, c'est une question d'écriture, parce que la créolité n'est pas forcément une langue écrite. Et ouais, parfois, donc, on peut. Donc, il y a le gambas au curry. Oh là 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 là. Donc, nous si, invitons si, tous
le,
à venir.
Le créole est une langue écrite.
Est une langue écrite, ah, mais oui, c'est vrai oui. qu'il faut. Enfin, on n'est pas bah, tous.
Il faut apprendre. Je crois qu'il faut apprendre. C'est pour ça que tous ceux qui veulent, ben, rapprochez-vous des différentes associations et on pourra apprendre.
Vous avez une formation donc de l'association, vous
Moi, j'ai pas, mais on pourra laisser des adresses par la suite, mais on peut apprendre et écrire, c'est comme toutes les langues régionales.
Ah ben c'est génial la divergence, parce qu'on passe du sport au plat et à la culture et à la littérature.
Ben c'est un tout, hein. Quand on déplace, un homme se déplace, il se déplace avec tout ce qu'il a connu. Ce qu'il a vécu.
Ça, c'est clair. Et souvent, pour les sportifs, on parle d'après-carrière. Et puis le vôtre, quelle reconversion ? Parce que, je l'annonce, vous êtes élu régional.
Oui, ben depuis...
Depuis dimanche ?
Depuis dimanche.
Donc...
Ben oui, ben une grande fierté. Je crois qu'on a rassemblé beaucoup de gens. On a vraiment présenté un programme qui était cohérent. Et maintenant, ben, il faut le mettre sur place. Il faut le développer et c'est important, ils nous ont fait confiance. Maintenant, j'ai plus qu'à dire qu'au boulot. Hein. Donc, dès vendredi, on va élire le président de région et tous les vice-présidents et tous ceux qui vont travailler. Moi, je serai délégué au sport. Donc, voilà, je vais rester dans ce que je sais faire le mieux.
Donc, délégué au sport, donc vous allez œuvrer dans la formation. Et vous me disiez que c'est le but, c'est aussi de garder ce qu'on forme ici.
Oui, voilà, je crois que ce sera une grande ligne. Bon, il y en a les grands travaux qui vont se faire avec la Maison des Sports. Ça, c'est important. On va finir 2011, la Maison des Sports, où il y a les 64 ligues qui vont se regrouper. On va pouvoir fédérer, on va pouvoir travailler ensemble et que toutes les ligues puissent profiter de ça. Et il y a aussi la grande salle. La grande salle, ce sera un outil extraordinaire. On pourra voir des grandes manifestations sportives, notamment le master qu'on a pu avoir, le master de tennis. On aura des grandes rencontres de Ligue des Champions avec le handball et bien d'autres encore. Je crois que des concerts et autres. Mais au niveau du sport, ça va être un outil exceptionnel pour nous, pour une fenêtre sur notre sport et sur le sport en France.
Et peut-être un jour une fête des cuisinières à la grande salle. Ça prend 10 000 personnes, la grande salle, à mon avis. Qu'est-ce que t'en dis, Jean-Claude ?
Pourquoi pas ? Ça peut être un projet à mettre en place. Hein. Joël, n'en demande pas moins. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ?
Parce que là, en plus, donc c'est un menu complet hein, pour la fête de cuisinière. Boisson, entrée, plat.
Ouais, ça a toujours été ça. C'est un menu copieux quand même. Hein. Entrée, plat, dessert et boisson. Pour que les gens puissent se régaler quand même. Passer un bon petit moment ensemble.
Donc avec plusieurs personnes qui ont cuisiné.
Oui, voilà.
C'est-à-dire indépendamment dans leur coin, chacun a cuisiné quelque chose.
Oui, je tiens à le préciser. Je leur tire mon chapeau. C'est vrai que Dom Tom a la chance d'avoir... parmi ses membres, parmi ses adhérents, des gens qui viennent de toutes les origines. Donc, par conséquent, tous ces gens-là œuvrent pour que la fête des cuisinières soit une telle réussite. Et je leur remercie encore d'avance.
D'accord, parfait. Ben, écoutez, c'est vite passé lorsqu'on a des personnes qui ont des choses à dire. Alors, Jean-Claude, il y a un dernier mot.
J'ai un petit mot à dire. Bon, ben, je dis à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent de venir nous voir ce samedi 27, partager ce moment de convivialité et partager aussi les petits plats que les gens de Dom Tom, les bénéficiaires, les bénévoles ont préparé.
Voilà. Merci d'être venu nous présenter. Alors, Joël, un dernier mot. Merci d'être venu déjà.
Merci de m'avoir invité, c'est avec plaisir que je peux venir ici pour vous découvrir et faire partager ce que nous avons mis en place. Mais il y en aura bien d'autres rendez-vous et c'était des rencontres avec les ultramarins et les montpelliérains ou les languedociens, c'est formidable. Donc c'est un vrai échange et nous sommes tout à fait prêts à échanger, à partager autour d'un plat et autour de ce que nous pouvons. Ce que nous sommes déjà, notre culture et autres, et à partager avec les Montpellier.
Bon, ben merci beaucoup Divergente et Divergence. J'espère que ça vous a donné l'envie de venir à la fête des cuisinières ce samedi 27 à la salle de rencontre de la mairie de Montpellier à 12h30. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et c'est ainsi que se referme ce fabuleux Tous au poste du mercredi 24 mars. Merci à Ricardo qui était au micro aujourd'hui. Et puis également à toute notre tripotée de stagiaires pour nous présenter les bons plans. C'était Julia Chamodon au micro aujourd'hui. Et bien sûr, Pascal Rullier derrière les petits boutons de la technique. À suivre sur le 93.9 à 13h20, vous retrouverez Olivier Notal. Il nous commentera l'actualité, les dents à serrer, un petit billet d'humeur. Aujourd'hui, il sera question des régionales. À 13h30, c'est votre rendez-vous avec l'actualité du 7e art et ses bandes annonces, commentées par Vincent Pourageau, Boris et Nicolas Griffo. C'est Boris Nicolas pardon, et Martin Griffo à l'affiche du jour. Soul Kitchen de Fatih Akis, Bad Lieutenant de Werner Herzog, Tim Burton avec son Alice au Pays des Merveilles et les rencontres du cours dont nous sommes partenaires. À 17h, ce sera la rediffusion eh bien, de Radio Mécide, de Radio France Internationale pour un point avec l'actualité et puis de notre Tous au Poste en ce qui concerne la culture. À 19h30, ne manquez pas Rock and Page, le magazine littéraire qui aime la musique, servi sur plateau par Marie-Pierre Soriano. Et pour finir la soirée à 20h30, ce sera l'Agora des Savoirs, retransmis en direct sur nos ondes. Maurice Godelier, anthropologue et directeur d'études à l'EHESS, nous parlera de la politique et du sacré au fondement des sociétés humaines. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable après-midi à l'écoute de nos ondes. À bientôt et divergez bien.